Bonjour, alors merci pour cette invitation du GBU Santé. Je me présente Luc Kolekhnovitch, je suis d'abord pasteur. Je suis président d'une commission d'éthique commune aux églises évangéliques et je suis aussi membre de la commission éthique et société de la Fédération protestante de France. À ce titre, j'ai contribué en 2009. Il y a eu un avis de la Fédération protestante de France sur la révision des lois de bioéthique et j'ai rédigé le chapitre sur l'assistance médicale à la procréation. Alors ce matin dans le métro, je lisais un psaume, le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Voilà, que nous ne soyons pas dans la crainte par rapport à ce sujet, mais que le Seigneur vienne nous éclairer. Alors je vais donner un petit... Oui, tu me fais signe. D'accord. Il faudrait... C'est connecté, mais pour la projection. Alors, un bref historique de la procréation artificielle et de sa réception. Ça me semble important d'unir les deux. Les origines documentées, au moins, une expérience à la fin du 18e... d'un prêtre catholique d'ailleurs, Spallanzani, qui a réussi une insémination artificielle chez une chienne. Puis, alors les dates, je mets fin du 18e parce que j'ai trouvé plusieurs dates, je n'ai pas fait de recherche historique plus. Un médecin, alors certains disent qu'il est écossais, d'autres qu'il est anglais, le docteur Hunter, qui réussit donc une insémination artificielle sur une épouse avec le sperme de son mari qui aboutit à une naissance. Donc c'est une expérience réussie. Alors dans les années 40 en France, l'insémination artificielle va se développer comme une technique vétérinaire pour l'amélioration des races bovines. Ce n'est qu'en 1978 que naîtra le premier bébé dit éprouvette en Grande-Bretagne, Louise Brown, après fécondation in vitro et transfert d'embryon. Alors, un point intéressant, le professeur Edwards, qui a réalisé cette première, avait sollicité l'appui du Conseil national de la recherche de Grande-Bretagne, qui lui a demandé, et il faisait d'abord l'expérimentation, il avait commencé ses expérimentations sur la souris. Et le Conseil de la recherche de Grande-Bretagne lui a demandé de faire une phase d'expérimentation sur le singe. Il a refusé. Et d'ailleurs, à cause de ça, il n'a pas eu de financement. Et donc, cela, comment dirais-je, d'après un biologiste, au fond, retardait la mise au point de la fécondation in vitro chez l'homme. Et en tout cas, on voit qu'il y a une phase d'expérimentation chez l'animal, plus proche de l'homme, qui aurait été utile, on pourrait dire éthiquement aussi, et qui a été sautée par précipitation. En 1982, donc la naissance d'Amandine, premier bébé éprouvette, entre guillemets, français. Et vous voyez que la création, 1983, création du Comité consultatif national d'éthique, aussitôt, voilà, c'est un événement qui crée une interrogation éthique et le président François Mitterrand éprouve le besoin de créer une commission qui réfléchisse à ces la question de bioéthique. Alors, en 1984, naissance de Zoé, le premier bébé après transfert d'embryon congelé. Alors, sur la congélation d'embryon, il est intéressant de savoir que c'est aussi une technique vétérinaire au départ. On s'était aperçu sur les brebis que le fait de féconder et d'implanter plusieurs embryons eh bien, permettait d'avoir une fécondité bien supérieure. Mais cela crée un problème d'embryon surnuméraire pour les brebis. Alors, on voit que cette technique vétérinaire a été transférée à l'homme sans qu'il y ait une réflexion éthique préalable en se demandant est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir, affiner cette technique pour éviter ce problème des embryons surnuméraires. Voilà, il y a eu un simple transfert technologique à l'homme. En 1186, Jacques Testard, dans son livre L'œuf transparent, préconise l'arrêt de la recherche sur la procréation artificielle. Alors, réaction des chrétiens en 1987, donc l'instruction Donum Vitae et côté catholique et biologie et éthique côté Fédération protestante de France. J'y reviendrai cet après-midi. 1990, première naissance après diagnostic préimplantatoire. En 1992, première naissance après donc la technique de l'injection du sperme directement dans l'ovule. Alors ça pose aussi des problèmes, j'y reviendrai cet après-midi, des problèmes éthiques sur les effets possibles sur la descendance de ces techniques. 1994, loi de bioéthique en France. Hein. En 1999, la conférence des églises européennes fait un bilan 20 ans après de la procréation médicalement assistée et parle d'acharnement procréatif. Le ton est beaucoup moins optimiste, je dirais, que celui de la Fédération protestante de 1987. On commence peut-être à prendre conscience des problèmes. 2004, en France, nouvelle loi de bioéthique. Création de l'Agence de la biomédecine. Donc, qui contrôle les centres de PMA, l'accès à ces techniques. En 2009, états généraux de la bioéthique. Donc, le gouvernement, avant de réviser les lois de bioéthique de 2004, lance une consultation citoyenne avec des débats, des panels citoyens qui sont consultés. Et à cette occasion sortent plusieurs textes. Donc, du côté catholique, propos pour un dialogue. Bioéthique, propos pour un dialogue. Donc, c'est le groupe de travail des évêques catholiques de France sur la bioéthique. Et un texte de la Fédération protestante auquel j'ai participé. 2010, première naissance en France à partir d'ovocytes congelés. Alors, donc c'est le professeur Friedman qui a été à l'origine de cette première française. Et alors, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que le professeur Friedman, là, a contourné la loi française qui interdisait la congélation d'ovocytes au titre que ça rentrait dans la recherche sur l'embryon, etc. Il est passé par-dessus. Je vous recommande de regarder en archive l'émission Duel sur France 5 qui confronte le duel Friedman-Testard. C'est extrêmement intéressant. Et on voit la figure. Alors, il y a un des assistants de Testard qui dit Testard, qui est très critique après sur la procréation assistée, sur l'industrialisation de la procréation, Testard, c'est le prophète. Mais Friedman, c'est l'archange. Ah oui, il fait l'annonciation. Voilà. Mais la façon dont Friedman, on voit que Friedman s'affranchit allègrement des règles, quelqu'un rapporte, il dit lui-même avec une certaine jubilation que, d'ailleurs c'est quand même très, très étonnant, c'est le plus critique, c'était le biologiste Jacques Testard. C'est Friedman qui a été au comité consultatif national d'éthique, dont il s'affranchissait allègrement des règles en disant que c'était un comité consultatif. Et il a été aussi, sur les lois de 1994 de bioéthique, aussi très acteur. Et quelqu'un rapportait qu'il trouvait ça assez jouissif d'être à la fois le créateur de la technique et celui qui va la réguler. On est dans la toute-puissance, là. Alors, autre première, sous l'égide de l'équipe de Friedman, hein, en février 2011, la première naissance en France, d'Umutala, je crois que c'est un nom turc, qui est le premier en France bébé issu d'une double sélection préimplantatoire, donc sélection d'une part pour vérifier que cet embryon est exempt d'une maladie génétique, la bêta-thalassémie, et d'autre part, qu'il soit donneur compatible pour sa sœur atteinte de cette maladie. Et donc ce bébé a été appelé, à un juste titre, à mon avis, bébé médicament. Mais on pourra y revenir cet après-midi. Et donc, en les dernières lois de bioéthique, qui voyaient court un petit peu après les innovations techniques en juillet 2011. Voilà, je ne sais pas s'il y a place pour un temps de questions. Voilà, on passe directement la parole à la juriste.